Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Donc, on prend le temps d'atterrir d'une certaine façon, de se placer, de causer, de voir les intérêts que nous portons par rapport à cette expérience. Donc, je me présente aussi comme étant responsable d'une radio catholique au Québec. Donc, ce sont des informations qui sont importantes parce que Guillermo, ce professeur, ce guide, et avec le Père Christian vont tenir compte de cette réalité-là. Et je leur dis toujours, moi, je viens et je visite des endroits dans le monde et c'est pour l'auditoire. Ce n'est pas pour moi. Bien sûr que je reçois beaucoup, mais c'est en vue de redonner à l'auditoire de Radio Galilée cette expérience et de faire en sorte que l'auditoire est aussi en pèlerinage et fait partie de l'expérience. Alors, je vous ai parlé de ce restaurant. Eh bien, il est situé dans les murs d'un ancien couvent de Dominicains. Alors, c'est une histoire de pouvoir. Et vous allez voir, à travers le parcours, les jours qui arriveront, nous aurons des bribes historiques. C'est un pays très religieux. C'est un pays catholique. C'est un pays chrétien. Donc, mais c'est un pays aussi de persécution. Il y a eu des persécutions, il y a eu des moments très, très, très pénibles. Alors, un potentat, un chef, quelqu'un d'autorité, eh bien, a voulu justement mettre sa main là où il ne devait peut-être pas la mettre. Et là, il a disloqué l'église, parce que l'ancien couvent des Dominicains était greffé à une église, qui est toujours là, l'église des Dominicains. Alors lui, pour mettre justement de l'huile sur le feu, a décidé de faire passer une ruelle. Mais pour faire passer la ruelle, eh bien, il faut couper le couvent avec l'église. Alors vous voyez le genre. Donc l'église est attenante au couvent. Il y a comme probablement une sorte d'aile qui part de l'église et qui se rend au couvent. Alors lui, il va faire sauter cette aile pour y passer une petite ruelle à sa guise. Donc, le couvent est ainsi détaché et progressivement, bon, il y aura moins de Dominicains dans l'entourage, eh bien, ça va devenir des appartements et jusqu'à devenir, et je peux vous dire que c'est assez grand, ce couvent-là, pour que un peu plus loin, on retrouve le fameux restaurant. Alors, quand on regarde, on ne comprend pas tout de suite, mais quand on nous explique, on finit par comprendre. Parce que aujourd'hui, la petite ruelle, elle est toujours là, l'église est détachée, et à côté, on voit des bâtiments. On peut reconnaître, oui, un style religieux. Alors, c'est le couvent des Dominicains, mais encore plus loin, des ailes continuent du bâtiment. Et là, c'est là qu'on retrouve notre fameux restaurant. Donc, histoire de tracasseries, des tracasseries qui font que on n'est pas à l'aise. Des gens se sont rencontrés et ne se sont pas compris. Et c'est une tactique au fond, une tactique vicieuse d'un potentat. Voilà. Nous visitons l'église des Dominicains, une église du XVIe siècle, une église baroque de différentes époques. Alors, baroque, ça veut dire il y a tellement de choses, et nous allons voir ce style au Mexique où c'est extrêmement chargé. C'est très chargé dans l'architecture, c'est chargé aussi dans, je dirais, les statues. Les statues sont très, très impressionnantes aussi, surtout les statues qui manifestent les éléments de la passion du Christ. Alors nous avons là des expressions, des statuaires presque à fleur de peau, là. C'est très fort, c'est très fort. Ce ne sont pas des Christs modernes, là, où on voit à peu près rien, là. On a comme un profil, et il faut s'imaginer le reste. Vous pouvez vous imaginer que c'est tout le contraire. Là, on a tous les détails et plus. Donc, c'est une architecture baroque très, très particulière. Dans cette église, à un moment donné, on s'arrête parce qu'on voit quelque chose. On voit justement la statue d'un Jésus qui porte la croix. Mais en même temps, il porte un magnifique châle sur les épaules. Alors, on voit bien que c'est un Christ qui est sur le chemin, qui porte la croix, qui porte sa croix. Mais en même temps, ce châle nous impressionne. Et Guillermo va nous expliquer l'origine de ce châle, parce qu'il y en a plusieurs. C'est comme une petite chapelle dans l'église. Vous savez, il y a des petites chapelles un peu partout. Et là, on rencontre ce Christ au châle. Alors, l'histoire raconte que c'est une dame qui va donner son châle à un pauvre un jour, à Mexico. Et ensuite, Jésus se fait reconnaître dans le pauvre. Alors, c'est une expérience spirituelle qu'elle va vivre. Elle va donner, parce que le pauvre n'a rien ou a froid, elle va donner son châle à ce pauvre, mais en même temps, elle vit l'expérience que c'est Jésus qui se révèle. Jésus a dit « j'étais pauvre, j'étais affamé, j'étais sans vêtements ». Alors, elle va donner son châle. D'où est née cette tradition? Les gens, après avoir été exaucés d'une faveur qu'ils ont demandée, eh bien, ils apportent à ce Jésus souffrant un châle. Et là, vous avez toutes les couleurs. Vous en avez des rouges, vous en avez des bleus, des mauves, vous en avez des jaunes, des orangés, des blancs, des noirs. Toutes les couleurs, c'est magnifique. Comment on les dispose également. Les murs sont remplis de châles. Alors c'est une tradition populaire colorée, et qui rappelle que lorsqu'on rend service à quelqu'un qui est dans la misère, quelqu'un qui a besoin, eh bien c'est le Christ que nous rencontrons. C'est Jésus lui-même qui se révèle à travers ce pauvre. J'étais sans abri, j'étais malade, j'étais nu et tu m'as vêtu. Voilà ce que rappelle ce Jésus avec le châle et cette histoire qui nous a été racontée, que je trouve très belle. Il y a de ces histoires de traditions religieuses populaires qui sont touchantes. Et encore aujourd'hui, vous pouvez voir, les gens apportent, ça ne sera jamais terminé, les gens qui ont obtenu une faveur, continuent d'apporter des châles de toutes les couleurs. Nous allons nous diriger vers la cathédrale. Alors la cathédrale, c'est une des grandes places à Mexico. Alors c'est grand, c'est immense. Et près de la cathédrale, nous voyons une grande statue de Jean-Paul II. Parce que le pape Jean-Paul II est allé à Mexico plusieurs fois. Alors nous voyons une statue de Jean-Paul II en métal et avec du bronze aussi, le représentant lors d'un de ses séjours à Mexico. On le voit et sur sa chasuble on découvre le visage de la Vierge Marie, dont je vous parlerai abondamment lorsque nous arriverons au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe. Quelle est cette histoire de cette image de la Vierge? Alors c'est quelque chose de très 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 beau. Donc, c'est ce que nous voyons. Nous voyons une grande statue de Jean-Paul II et sur sa chasuble, comme à l'avant, nous découvrons la Vierge de Guadeloupe qui a été imprimée sur, euh, sur son vêtement, donc sur la chasuble. Vous savez comment on a réalisé cette grande statue en métal, ensuite on a recouvert du bronze? Eh bien, on a invité les gens à donner leurs clés pour la fabrication de la statue. On a des clés, vous savez. Moi, j'en ai, qui ne sont plus fonctionnelles. Eh bien, on a demandé aux gens, apportez votre clé, apportez vos clés. Et ils ont fait fondre ces millions de clés pour faire la statue de Jean-Paul II et recouverte de bronze. C'est intéressant. Ce n'est pas simplement de donner quelque chose qui ne sert plus. Ce n'est pas simplement se débarrasser du superflu. Ça a un sens. Donner la clé. C'est donner la permission d'entrer chez soi. Et c'est peut-être cela que Jean-Paul II leur a témoigné en les aimant, en les visitant. Vous m'avez vous-même ouvert la porte, je suis venu chez vous. Comme je disais tout à l'heure, au Mexique, hein, c'est ma maison, c'est ta maison. Alors les gens ont donné leurs clés, des clés, pour faire cette statue quand même impressionnante du pape Jean-Paul II, recouverte de bronze. À qui donnons-nous nos clés? À qui pourrions-nous donner notre clé pour faire une œuvre, pour faire quelque chose? C'est intéressant ces idées, je dirais, qui viennent du peuple. Des idées très simples, comme tout à l'heure, cette tradition du châle. Et ici, cette demande, apportez vos clés. Vous allez me dire, bon, c'est sûr qu'ils ont donné des clés qui ne sont plus fonctionnelles. Oui, mais le sens est beaucoup plus profond. En donnant la clé, je donne aussi la permission que ma vie entre dans la vie de l'autre, que mon histoire fasse partie de son histoire. Et surtout, si c'est une clé qui est non fonctionnelle, on sait très bien pourquoi on l'avait. On n'en a plus besoin, mais elle nous a servi un temps dans notre vie. Alors ainsi, qu'est-ce qu'on donne, nous? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on donne à l'Église? Qu'est-ce qu'on donne aux pauvres? Qu'est-ce qu'on donne à ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on donne nos clés? Est-ce qu'on est en mesure de dire « ma maison, c'est ta maison » ? En tout cas, moi, je suis en mesure de vous dire que je ne suis pas arrivé là, je ne pense pas. Pas toujours. J'aimerais bien. Des fois, oui. Alors, la cathédrale. Eh bien, c'est la porte sainte. Le pape François a fait en sorte que il y ait des portes saintes un peu partout dans le monde lors de cette année du jubilé de la miséricorde. Eh bien, ce sera la première porte sainte que je vais franchir en cette année jubilaire. Eh bien, c'est à Mexico, en Amérique, et là où nous invoquons Marie, patronne des Amériques. Je pense que nous sommes en Amérique du Nord, et l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, et à les Amériques. Eh bien, la patronne des Amériques, c'est Notre-Dame de Guadalupe. Eh bien, je franchis la porte sainte en cette année jubilaire à Mexico. Je n'y avais pas pensé. Vraiment pas. Et surtout, lorsque je vous ai dit au départ, c'est pas du tout vers Mexico que je me dirigeais, mais complètement ailleurs. et les chemins se sont fermés pour que d'autres s'ouvrent. Eh bien, c'est à la cathédrale de Mexico que je franchis la porte sainte. Et là, nous arrivons devant un immense retable qui prend tout l'espace. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir d'un coup d'œil l'ensemble de la cathédrale. Il faudra aller au-delà de cet immense retable où nous voyons des images, où nous voyons toujours la représentation, évidemment, de Notre-Dame de Guadeloupe, non pas l'original, mais des copies. On revoit toujours cette image. Là, je la vois. Mais à côté, nous regardons un Christ très beau. Le Christ est tout noir, mais magnifique. Et il a une couronne sur la tête, une couronne en or, mais avec du rouge aussi qui se profile dans la couronne. C'est très très beau, là. C'est une œuvre d'art. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. Petit Jean était impressionné. Il sentait que quelque chose d'important, d'unique, allait bientôt se passer. Une sorte d'instant magique se déposait sur lui alors que Pépé Antoine se leva tout d'un coup. La fatigue l'avait soudainement gagné et, péniblement, il se tenait sur sa canne avec ses deux mains. Il fixa Petit Jean avec un air de gravité. Puis, lentement, comme d'un autre monde, il lui dit « Petit Jean, cette étoile t'enseignera tout pour gravir l'impossible. » Elle seule la connaît pour en avoir gagné le sommet. C'est le seul combat qui compte. Tous les autres ne sont rien. La guerre, le pouvoir, l'argent, les dominations et même l'amour s'effacent devant lui. Pépé Antoine avait baissé le ton et tourné la tête en finissant sa phrase. Petit Jean buvait chaque parole, chaque mot. Un à un, ces mots se gravaient en lui comme d'ineffaçables coups de ciseleur sur le granit. Pépé Antoine eut comme une hésitation, puis il ajouta « Va, va, ton printemps, et l'âge qu'il faut pour atteindre l'impossible. Moi, je retourne à l'hiver. » Doucement, la silhouette de Pépé Antoine s'enfonça dans la nuit. De loin, Petit Jean écouta longtemps l'écho de sa canne sur les pierres. Brutalement, le glas de la petite église Sant'Antonio se mit à réveiller tout le village. Les gens reconnaissaient facilement le son de la mort. La place publique redevint le haut lieu des nouvelles. Tous et chacun se demandaient pour qui sonnait la cloche. Petit Jean s'était rapidement levé et de la fenêtre de sa chambre, il regarda avec angoisse la fontaine et le grand arbre où se regroupait la foule. Il partit en courant et se rendit péniblement sur place, se frayant un chemin à travers la cohue de gens qui se colportaient la nouvelle. « Pépé, Pépé » disait-on. Petit Jean blêmit. Il sentit subitement ses forces l'abandonner et s'appuya sur son arbre en cherchant son souffle. Ce n'était pas un rêve. Pépé Antoine était mort. Quelqu'un l'avait trouvé au petit matin, étendu au bord du chemin à quelques pas de sa maison. Les gens du village y allaient de toutes leurs réactions, de la tristesse à l'indifférence. Mais une profonde solitude s'empara du cœur de Petit Jean. Le glas terminait son triste tintement alors que les villageois, rassemblés sitôt sur la place publique oubliaient déjà le motif de leur venue. Chacun repartit en s'enfonçant dans son petit monde. Ce matin-là, Petit-Jean vint s'asseoir près de la fontaine, là où Pépé-Antoine prenait place chaque jour. Ses yeux se remplirent de larmes. Et se souvenant des paroles du vieux Pépé prononcées la veille,
« Moi, je retourne à l'hiver. »
Il eut froid. Le lendemain, en fin d'après-midi, tout le village s'était massé à la petite église Sant'Antonio pour les funérailles du vieux Pépé. Venue d'un village voisin, une sœur lui survivait. Seule, dans le premier banc à gauche, elle priait en silence, alors que s'ajustait en cours de route le premier cantique et l'harmonium qui jouait fort. Un grand silence marqua le début de la cérémonie. Le curé parla d'un vieillard de l'Évangile qui avait su voir dans l'enfant que tenait Marie celui qui serait la lumière pour tous. Petit-Jean écoutait ses paroles, et ses paroles résonnaient en lui. Pépé-Antoine n'était-il pas ce vieillard qui le poussait dans la force de son printemps vers l'impossible montagne? Après les dernières prières, il fallut quitter l'église. Le glas se remit à dire que la vie était une course folle. Le cortège suivait lentement, obligé à entendre l'éternel refrain de la cloche qui arrachait un peu chacun à toutes ses préoccupations. On atteignit donc le petit cimetière derrière l'église. De loin, la montagne semblait suivre l'événement, et le jour commençait à s'éteindre sous un soleil affaibli. Des hommes déposèrent près de la fosse le cercueil du vieux Pépé, tandis qu'un chapelet bougeait dans la main de la sœur du défunt. Le curé prit la parole.
« Je vous annonce la résurrection du Christ. »
Tous baissèrent la tête. Puis le prêtre aspergea le cercueil et la terre en ajoutant.
« Le soleil va bientôt disparaître pour nous. La nuit prendra son domaine et nous ne le verrons plus. Mais en nous quittant, il se lèvera de l'autre côté du monde et réveillera ceux qui dorment pour un autre jour. Pour nous, Pépé-Antoine s'en est allé. Mais nos yeux ne doivent pas s'en retourner avec le seul souvenir de ce cimetière. Notre vie, qui s'en va de ce monde, renaît dans l'autre, où déjà elle brille dans ce jour que Dieu donne, là où le soleil ne se couche jamais. »
Petit à petit, les gens avaient relevé la tête, et leurs visages brillaient des derniers reflets du soleil couchant. Ils quittèrent le petit cimetière avec sérénité. Le curé marchait en soutenant la sœur de Pépé-Antoine et en saluant discrètement du regard les siens. Seul, Petit-Jean était resté immobile. Il faisait nuit dans son cœur. Le vent se leva. Les hirondelles dansaient avant de retrouver la paix de leur nid. Doucement, le soleil était mort derrière l'horizon montagneux, pour rebondir de l'autre côté du monde. Petit-Jean ne trouvait pas le sommeil. Dans sa tête, tout s'entremêlait. Les paroles, les images, le vieux Pépé. Dehors, le vent poussait plus fort sa plainte, tandis que le ciel semblait chargé et si noir. Ayant ouvert sa fenêtre, il cherchait la lune, ou même une étoile. Mais en vain. Le ciel était endeuillé. Il se décida à sortir et alla s'asseoir à la fontaine, là où Pépé-Antoine avait l'habitude de se placer. La pluie se mit à tomber et venait frapper Petit-Jean immobile. Les yeux fermés, il pleurait au-dedans et aussi au-dehors. Il goûta cette pluie, il la trouva bonne. Elle rafraîchissait doucement sa blessure et sa peine. Transi, grelottant dans cette nuit sans lumière, il se rappela les paroles du curé, et son cœur se mit à désirer le retour du soleil. Les coqs se relançaient dans leur chant qui défonçait l'aurore. Petit-Jean s'éveilla surpris d'être là, étendu sur son lit, encore trempé par la pluie. Une force nouvelle s'empara de lui. Ce matin-là, son destin se lirait indissolublement à l'impossible. Il irait voir l'étoile dont lui avait parlé Pépé-Antoine.
Soudain, comme par réflexe, il baissa la tête. Rappel de la main qui, depuis toujours, le rabattait vers le sol lorsqu'il osait lever les yeux vers la montagne. Mais rien n'y ferait plus. Il redressa vivement la tête, regarda l'impossible droit devant et prit le chemin qui le mènerait jusqu'à la dame de la montagne. Tous les gens du village savaient qu'elle vivait là. On éprouvait pour elle à la fois admiration et crainte. Ne fallait-il pas qu'elle ne soit pas tout à fait humaine pour vivre là-haut, seule, près de l'impossible montagne? On murmurait mille et une choses sur elle, comme sur la montagne. Pensant à ceux et celles qui avaient tenté d'atteindre l'impossible pour n'en jamais revenir, on les voyait prisonniers d'une retraite inaccessible, où seule pouvait aller la dame de la montagne. Certains prétendaient qu'elle se tenait le jour au sommet de la montagne, là où il n'était pas possible à l'être humain de porter son regard, et que le soir venu, par un mystérieux pouvoir, elle regagnait sa chaumière que l'on avait tôt fait de distinguer dans la nuit. Petit Jean songeait à toutes ces légendes en suivant le sentier qui le conduisait jusqu'à la montagne pointue. Le soleil l'accompagnait. Au-dedans, son cœur riait. Il arriva enfin à la montagne pointue qu'il devait gravir. Il lui semblait traverser l'inconnu, voyant sans cesse défiler les arbres, la forêt avec ses bruits insolites. Mais il se trouva enfin devant la chaumière. Elle semblait perdue dans ce décor majestueux. L'impossible surplombait. À sa vision, la crainte s'empara soudainement de lui. Devant ce qu'il découvrait, une sorte de torpeur l'ébranlait. « Quelle montagne !» se disait-il en regardant l'impossible. « Peut-on jamais la gravir ?» Petit Jean n'arrivait pas même à voir la cime qui se perdait dans les nuées. Se retournant, il aperçut de loin son village. Il paraissait si minuscule, avec la flèche du clocher qui scintillait vers le ciel. Un grand silence s'étendait tout autour, donnant un air de liberté à la petite chaumière toute blanche. Quelques fleurs étaient semées près d'elle. Un peu plus loin, des poules s'étaient mises à caqueter. Quelques cigales criaient à leur manière la chaleur du jour. Petit Jean s'avança et frappa à la porte de la chaumière. Personne ne répondit. Son cœur battait si fort qu'il pensa s'enfuir en courant. Il frappa une deuxième fois, mais toujours le silence. Nerveusement, il frappa enfin si fort qu'il en ouvrit la porte. Stupéfait, il resta sur le seuil, incapable de bouger, ni même de parler. Le soleil envahit tout l'intérieur de la chaumière. Soudain, il vit de dos la dame de la montagne, assise dans un coin près d'une fenêtre. « C'est elle !» se dit-il. Puis il cria. « Il y a quelqu'un ?» Sans se détourner de sa fenêtre, elle dit. « Pourquoi cries-tu ? » Saisi, Petit Jean se mit à bafouiller des « parce que ». « J'ai très bien entendu frapper à la porte. Mais pourquoi n'avez-vous pas répondu ?» D'habitude, lorsqu'on ne frappe qu'une seule fois ma porte, c'est pour avoir de l'eau ou savoir quel chemin mène à la haute montagne. Alors, je ne dis rien, puisqu'il y a les sources et la rivière, et que pour la montagne, il n'y a qu'un seul sentier. Petit Jean restait pétrifié sur le seuil. Puis, si on frappe deux fois, c'est encore pour la même chose. Les gens me croient sourde ou distraite. Ils ont encore les sources, la rivière et le sentier. Petit Jean enchaîna. Et la troisième fois ? La troisième fois. Je viens ouvrir, car vraiment là, quelqu'un cherche quelqu'un. Mais toi, tu m'as devancé.